When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je reçois Laura Cahen, une talentueuse auteure, compositrice et interprète qui sort son deuxième album, Une fille, et nous allons en parler. Bonjour Laura Cahen, bienvenue sur So Sweet Planet.
Bonjour et merci.
Alors, sur So Sweet Planet, en général, on parle souvent d'environnement, de droits humains et puis de culture, beaucoup, puisqu'on en a de plus en plus besoin et qu'on en a beaucoup manqué durant cette année 2020. Et avec les personnalités qui viennent parler musique, en général, j'aime bien donner la possibilité aux auditrices et aux auditeurs pour faire connaissance de parler un petit peu de l'enfance, pas forcément de l'enfance, mais en tout cas de ce qui a constitué la personnalité que tu es aujourd'hui, celle que l'on écoute par ton album. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de l'enfance de Laura Cahen, de ce qui a pu construire ta personnalité musicale telle qu'elle est aujourd'hui, selon toi, avec le recul aujourd'hui?
Ah oui, oui. Alors, déjà, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille de mélomanes et d'avoir deux grands frères musiciens que j'ai toujours entendu faire de la musique, quoi. Parce que, ils sont beaucoup plus âgés que moi. Il y en a un qui a 18 ans de plus que moi et l'autre 10 ans de plus. Donc, ils étaient déjà dans des trucs...
Et quel genre de musique ? Classique ou rock ou...
Non, plutôt... plutôt rock, ce qu'on appelle musique actuelle, quoi.
D'accord.
Hein, je pense, oui, mon frère, il a écouté beaucoup Nirvana aussi. Mais bon, là ça, à l'époque, j'adhérais pas trop, j'étais trop petite. Par contre, je me souviens de mon père qui me chantait les Beatles beaucoup, puis on écoutait ensemble... On écoutait Souchon, Brassens, et ma mère me chantait plutôt les Fabulettes d'Anne Sylvestre.
Il y a des belles références.
Ouais, beaucoup écouté Pierre et le Loup aussi.
Oui.
Et puis ils m'ont inscrite à l'éveil musical quand j'avais 4 ans. J'ai commencé à faire un peu de piano, mais c'était pas trop mon truc à ce moment-là. Enfin, même si j'étais
le
contente.
Le piano ou la musique ?
Le piano, la rigueur, je pense, la rigueur qu'imposent les cours de musique. J'avais pas envie tous les soirs en rentrant de l'école de faire le. T'as fait ton piano, fait ton piano.
C'est vrai que c'est barbant.
C'était un peu barbant.
On se rend compte après de ce que ça a apporté. J'ai
connu
ça aussi.
Ouais, c'est sûr. Mais
il y a aussi quelque chose dans l'enseignement de la musique.
Je pense que c'est pas assez ludique.
Mais voilà. Qui peut être un peu rébarbatif, alors que c'est la notion de plaisir et la musique, ça ne doit pas pouvoir être séparé.
Et moi, le plaisir de la musique, je l'ai trouvé en chantant, vraiment. Bon, alors, je chante depuis que je suis toute petite, mais j'ai tanné mes parents vers 10-11 ans pour prendre des cours de chant et pour vraiment apprendre comment il fallait faire un peu. Et là, j'ai voulu me remettre au piano et je me suis dit « Ah, ça servait peut-être à quelque chose, toutes ces années de... » un peu barbante.
Oui, c'est
ça. Le piano, c'est
que
ça peut servir à accompagner la voix. Et là, j'y ai trouvé un vrai intérêt.
Oui. Et ensuite, il y a eu des études de musique où tu as commencé tout de suite à écrire, à composer par toi-même, à jouer ?
Non, tout le long de mon enfance et adolescence, j'ai un peu pris des cours justement dans des écoles municipales de piano, de chant, voilà. Et puis, j'ai décidé d'apprendre la guitare toute seule, par contre, parce que, parce que mes parents me payaient déjà des cours de chant et de piano, mais que j'avais envie de pouvoir jouer des chansons un peu partout, ce qui n'est pas possible avec un piano.
Ah oui, c'est plus compliqué, voilà. C'est sûr, à transporter.
C'est beaucoup trop lourd. Donc, je me suis mise à la guitare. Et là, je suis autodidacte, mais les bases que j'ai eues avant de piano, de solfège, m'ont permis de comprendre l'instrument assez rapidement. Et j'ai commencé à écrire des chansons vers 15 ans, je crois. Voilà, seulement assez tard. Hein, je me disais, mais comment on fait ? Parce que je rêvais de ça, en fait. Je me disais, mais dans ma vie, je veux chanter. Moi, je veux faire ça. C'est ce que je veux faire. Mais comment on fait si on est juste interprète ? Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Il faut pouvoir écrire ses propres choses. Et ça me semblait être une montagne infinie impossibles à surmonter, enfin à franchir. Et puis finalement, un jour, j'ai mis un mot après l'autre. Enfin, j'ai construit une phrase comme ça, puis
tu t'es
j'ai
lancée.
Donné une phrase mélodique. Et puis oui. Je me suis dit que c'était pas si compliqué que ça.
Et il n'y avait pas violon aussi ?
Oui, mais c'est tellement anecdotique parce que ça a duré 2 ans et mon prof ne venait jamais parce qu'il avait des histoires d'amour très compliquées. Il était, je ne sais pas, peut-être un peu dépressif. En tout cas, il venait une fois sur 3 et je n'ai pas réussi à vraiment...
À quoi ça tient ?
Voilà, c'est fou, hein ?
Finalement.
Mais l'amour, c'est tellement important.
Oui. Qu'on se dirige vers un instrument ou vers un autre.
C'est ça.
Et aujourd'hui, tu composes avec la guitare ou...
Guitare et piano.
D'accord. Ouais. Alors, tu as des origines multiples. Tu en as déjà un petit peu parlé dans des interviews. Est-ce que ces origines, tu les sens lointaines, effacées ou bien présentes ? Et est-ce qu'elles ont... ou est-ce qu'elles ont une influence ?
Bah, c'est assez complexe, hein, parce que bon, du côté de mon père, c'est assez flou. Je sais que la famille est installée en Lorraine depuis des années, mais je ne sais pas vraiment d'où vient la famille avant ça, parce que ce sont des Juifs ashkénazes, donc on imagine qu'ils ont voyagé dans les pays de l'Est et tout ça, mais je ne sais pas exactement.
Oui, il n'y a pas de...
Et finalement, mon père ne sait pas trop, parce que mon grand-père ne savait pas trop lui-même, et, etc. Donc on fait un peu des recherches, mais ça reste flou. Du côté de ma mère, par contre, c'est beaucoup plus connu, clair et assumé aussi, parce que je pense que... Du côté de mon père, les origines juives ont été un peu refoulées à cause de la guerre.
Bien
ça.
Sûr, l'histoire, on comprend. Voilà.
C'est ça. Et ma mère, non, elle est fière de ses origines. Et puis, alors, je trouve que ça se ressent beaucoup dans la cuisine qu'elle nous a transmise.
De quelles origines, donc ?
Oui, pardon, c'est vrai que si je raconte pas...
Parce que
pas...
moi, je sais, mais il faut toujours que je me mette à la place de celles et ceux qui nous écoutent.
Ah, non, mais... Tu as tout à fait raison, je suis désolée. Alors, ma mère est née en Algérie, mais sa famille, donc ce sont des juifs séfarades qui viennent d'Espagne et qui ont été chassés au moment de Isabelle la Catholique en 1492, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont dû...
Là, tu es remontée loin, alors. Tu as un historique
là,
complet.
Je sais à
là,
peu près l'historique et je sais que la famille a été disséminée un peu... au Maroc, Libye, Algérie, et donc voilà, ma famille, ma mère a des origines libyennes, marocaines, algériennes, espagnoles du coup, c'est assez mélangé, et elle a dû quitter l'Algérie en 62, parce que c'était la guerre aussi, il fallait fuir la guerre. Donc elle est partie toute seule avec sa grande sœur, elles avaient 11 ans et 13 ans, sont partis seuls dans l'avion. Je sais qu'une anecdote un peu drôle qui fait passer les choses un peu mieux, mais qui est quand même triste, c'est que Michel, ma tante, a vomi sur la tête de ma mère pendant le trajet.
Ça commençait mal, le changement de pays.
Dur quand même.
Oui.
Et puis, elles ont laissé tout, quoi. Enfin, leur chat, leur tortue, leurs jouets. Les parents sont venus après, donc elles sont parties toutes seules, vraiment...
Mais accueillie par de la famille,
accueillie par les grands-parents.
Oui, ouais. D'accord.
Mais bon, je pense que... Enfin, moi, ça me traumatise quand j'y pense que ma mère ait dû subir ça, de fuir la guerre, de prendre l'avion toute seule avec sa sœur, dans les coucous de l'époque, qui étaient très turbulents à l'époque. Une enfant, quoi, qui laisse toute sa vie derrière elle, c'est... Oui. Ça me touche beaucoup. Et puis, c'est fort. Enfin, on a une relation très forte avec ma mère. Et puis, quand j'ai sorti mon premier album, Nord, qui parlait beaucoup de ce trajet-là, du sud vers le nord qu'a pu faire ma mère. Finalement, moi, je suis née à Nancy, donc elle est remontée encore beaucoup. Au départ, elle s'était installée à Cannes. Et puis après, je ne sais pas, Marseille, Grenoble. Et puis, mon père, étant en Lorraine, ils sont installés dans les Vosges, tous les deux. Et puis... voilà. Quand j'ai sorti mon album Nord, qui parlait de ce trajet-là, de mes ancêtres, de cette migration forcée, j'ai eu la chance d'aller jouer en Algérie, à Alger, et ma mère m'a accompagnée. Et on est allé visiter la maison de son enfance. Et les gens qui habitaient dedans nous ont accueillis à bras ouverts, nous ont fait visiter. Elle m'a dit, ma mère que le carrelage n'avait pas changé. Il y avait toujours des orangers, des citronniers dans le jardin. Ils nous ont donné 1 kilo chacune pour repartir. Enfin, c'était très émouvant de voir ça, puisque elle était retournée une fois pour un congrès de psychanalyse, parce que ma mère est psychiatre. Ah. Mais sinon, non. Et toi,
c'était la première fois.
C'était la première fois, oui.
Ah. Et donc, tes impressions,
c'était très émouvant, c'était beau. J'ai adoré ce voyage, mais c'était très express, quoi. On est passé une journée, voilà, j'aimerais bien y retourner. Mais donc, c'est très important pour moi de savoir d'où je viens, d'où ma famille vient. Mais bizarrement, j'en sais pas vraiment beaucoup plus que ce que je viens de raconter. Seulement, quand j'écris, ça transparaît. Notamment sur ce premier album, Nord, ça c'était vraiment très présent et je me suis interrogée un peu sur la mémoire cellulaire, ces choses-là, parce que je n'avais pas tellement réfléchi, mais j'avais envie de parler de ça, quoi.
Oui, c'est important et puis c'est une richesse aussi. Mmh. Alors, tu as déjà parlé de tes goûts musicaux, de tes influences. Alors, on trouve plein de beaux noms, Feist, Gainsbourg, Kerenan, Lassa, Barbara, Laura Marling, Camille, Billie Holiday. Plein de gens que j'aime, en fait. je réalise en lisant les noms. Il y en a pas mal que j'ai rencontrés, d'ailleurs.
Wow.
Dont Lassa. J'ai vu que tu aimais beaucoup Lassa. Je l'ai interviewé 2 ou 3 fois, Lassa.
Quelle chance.
Et la dernière fois que je devais l'interviewer, malheureusement, ça a été... Ben, elle est décédée.
D'accord.
Mais oui, quelle belle personnalité.
Oh là là, oui, vraiment, j'ai l'impression qu'elle dépose son âme sur la table quand elle chante. Il y a un truc tellement fort. Je suis très triste de ne pas avoir pu la voir en concert et puis la rencontrer. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais
c'est drôle, l'expression que tu viens d'employer, de mettre son âme sur la table. Parce que je me souviens, il y a une chose dont je me souviens d'une interview avec elle. Je lui avais demandé sur quoi elle se... concentrée, enfin, qu'est-ce qui était important pour elle quand elle était sur scène au moment où elle chantait. Et elle m'avait dit, c'est vraiment d'être très, très, je vais pas retrouver ces mots parce que là, ça fait une vingtaine d'années, mais c'était vraiment d'être concentrée et d'être centrée. Elle m'avait fait le geste physiquement sur l'essentiel, quoi. Et ça donnait effectivement une densité. Quand elle était sur scène, on sentait ça. Hein. Il y avait une présence.
On le sent dans ses disques aussi.
Dans une grande sobriété et en même temps, on sentait la concentration de l'essentiel, quoi. Oui.
Waouh.
Oui.
Magnifique.
Voilà. Et quel est le dénominateur commun, en fait, de toutes ces personnalités qui sont quand même assez variées entre Gainsbourg, Billie Holiday, Laura Marling, j'adore.
Ah, je suis complètement fan de Laura Marling.
Ah oui, moi
je
aussi,
pense
j'adore.
Que peut-être, c'est un peu ce que tu viens de dire, peut-être le dénominateur commun, c'est-à-dire être centré sur l'essentiel, délivrer quelque chose à la fois simple, mais en même temps personnel et... vraiment, moi, ça me transperce le cœur, Billie Holiday, Laura Marling ou Lassa, c'est vraiment, j'ai les poils qui se dressent, c'est physique, il y a quelque chose dans la voix. Bon, moi, j'aime les voix, et surtout féminines en général.
Oui.
Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est celle qui me touche le
plus. Oui.
Et là, vraiment, c'est des voix où j'ai l'impression qu'elle me parle et qu'elle ça fait bouger en moi à l'intérieur quelque chose, quoi. Je saurais pas vraiment l'expliquer, mais il y a des choses que j'écoute des fois où je trouve que c'est très beau, c'est très bien fait, je pourrais vraiment aimer ce genre de musique, mais ça ne me fait rien.
Oui, pas d'émotion.
Pas d'émotion, et je ne sais pas l'expliquer. Et là, ces filles là c'est dingue.
Oui, voilà. Et alors, si j'ai bien compris, donc c'est ton deuxième album, mais tu as déjà beaucoup tourné, en fait.
Oui.
Plus que d'autres personnes qui en sont à un deuxième album, donc, et y compris à l'international. Qu'est-ce que tu gardes de ces expériences, de ces rencontres avec d'autres publics ?
Oui, alors tu sais, moi j'ai commencé à faire des concerts vers 16 ans, et puis j'ai sorti mon premier album 10 ans après quasiment, et donc j'ai fait, je ne sais pas moi, 300, 400 concerts. Et c'est vrai que c'était le plus important pour moi. Bon, c'est que je n'avais pas eu la chance aussi de trouver comment faire pour faire cet album. Alors, j'ai fait des EP, j'ai fait en sorte de pouvoir faire ces concerts.
Oui.
Et pour ça, il fallait présenter de la musique. Mais voilà, alors je ne sais pas comment ça s'est passé finalement quand j'y pense, comment j'ai pu faire autant de concerts. Mais c'était super. Et puis effectivement, je suis allée au Canada, en Chine, je ne sais pas moi, en Angleterre.
Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai vu.
Saint-Pierre-et-Miquelon plusieurs fois.
Pourquoi plusieurs fois Saint-Pierre? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Ouais, déjà, c'est magnifique, oui. Vraiment. Oui. Mais c'est vrai que c'est incongru parce qu'il faut prendre 3 avions pour y aller. Et
oui, bon, c'est un peu le bout du monde.
C'est
oui.
Complètement le bout du monde. Il ne faudrait pas faire ça tous les jours parce que pour la planète, ce n'est pas terrible.
Oui.
Mais bon, donc dans le cadre de tournée au Canada, on a à chaque fois, on était en lien avec le programmateur du Centre culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui nous a proposé de nous accueillir, enfin de faire un concert, et on y est allé une première fois, c'était super, et ça nous a permis aussi de financer le reste de la tournée au Canada. Et on y est allé une deuxième fois pour les mêmes raisons, et c'est curieux, la première fois que j'y suis allée, j'ai eu une impression un peu de claustrophobie, de me dire c'est tout petit, on peut pas s'échapper, et je me sentais mal. Et bizarrement,
oui, puisque ce sont des îles, hein,
oui,
pour
oui.
Celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Ou
enfin, tout petit, Saint-Pierre, oui. C'est vraiment petit et il y a 6000 habitants,
oui.
C'est tout. Et Miquelon, c'est un peu plus étendu et seulement 500 habitants parce que le climat est tellement rude avec le vent, la pluie et le froid qu'il y a vraiment quelques résistants qui sont là, mais ce n'est pas évident, je pense.
On leur dit bonjour s'ils nous écoutent.
Oui,
j'aimerais bien, si vous êtes
beaucoup.
À Saint-Pierre-et-Miquelon, envoyez-nous un petit mot, ça nous fera plaisir de savoir que vous nous écoutez là-bas.
Voilà, ouais, en plus les gens sont vraiment très accueillants et c'est le seul endroit où j'ai pu voyager jusque-là où les gens ne ferment pas leur voiture à clé, laissent la clé dessus et ne ferment pas leur maison. C'est vraiment... doux, finalement, contrairement au
oui.
Climat. C'est assez curieux.
Ça devient si rare.
C'est ça. Et puis, la deuxième fois que j'y suis allée, c'était un peu l'impression inverse. Une impression de grande liberté. Il faisait beaucoup plus beau aussi, c'est peut-être pour ça. Et on nous a emmenés voir des baleines, des phoques. Il y a une masse de phoques. C'est impressionnant. Et une île qui s'appelle l'île du Grand Colombier, où il y avait à peu près 1 million d'oiseaux dessus. On a une impression de boule de neige renversée avec plein de petits trucs qui volent au-dessus. Et c'était vraiment magnifique. Et je me suis dit... Et je me suis rappelée... Je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait, mais en fait, la première fois que j'y suis allée, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Loin ». Mmh. Je ne me rappelais plus que je l'avais écrite là-bas. Et la deuxième fois, quand j'y suis allée, je me suis dit « Mais c'est marrant parce que cet endroit me fait penser à cette chanson. Il faudrait que je fasse le clip de cette chanson là-bas. » J'en parle à Yannick du Centre culturel qui me dit « Ça tombe bien, on met en place des résidences d'artistes ici. On a envie que les gens viennent nous voir et je pense qu'on pourrait financer ce clip. » On dit waouh, c'est incroyable.
Super.
Je pensais que c'était
oui.
Vraiment de l'ordre du rêve et en fait
oui.
Ça peut se concrétiser. Et je me suis rendu compte après en relisant mes carnets que loin il y avait une phrase en plus au refrain et qui disait loin, aussi loin que l'île aux marins. J'ai coupé après, mais l'île aux marins, c'est une île de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon où il y a vraiment 3 maisons seulement et une église et. Il y a plein de fleurs, de l'herbe. C'est très, très beau au milieu de l'eau, comme ça. Et voilà. Donc, je me suis dit, c'est fou. Enfin, le cerveau omet des bouts, des fois. Mais en fait, c'était tout à fait cohérent depuis le début. Et
oui,
je ne me suis pas rendu compte.
C'est drôle, oui. Et ça se recolle malgré toi, en fait. Oui,
exactement.
Alors, sur ce nouvel album, Une fille, tu as écrit les textes et composé les musiques de mm-hmm. toutes les chansons, sauf de La jetée, qui a été coécrite, je crois.
Coécrite avec mon amie,
oui.
Charlotte.
Oui.
Il y a du bruit derrière,
oui.
Pardon. Voilà, oui. D'ailleurs, cette chanson, elle est née à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai commencé à l'écrire toute seule. Ouais, décidément, c'est important dans mon processus
oui,
de création.
On voit ça.
Il y a effectivement une jetée avec un phare au bout et il y avait un temps de brouillard, de la neige et tout. Enfin, c'était quand on était en train de tourner le clip de loin, justement. Et là, je ne sais pas, cette phrase, la jetée le phare, je m'y suis jetée un soir, le vent si fort m'y poussait. Je pense que c'était un peu tumultueux dans mon esprit, dans mon être, les histoires d'amour, les émotions, tout ça. Et ça reflétait un peu ce que je ressentais. Donc j'ai écrit ça, puis après je l'ai laissé en plan. Et quelques 6 mois plus tard, je dirais, on est parti à Brighton avec Charlotte, donc ma petite amie.
Oui.
Et là, il y a cette, on venait de se rencontrer, hein, c'était tout frais. Mmh. Ça a rejoint le tumulte de du premier passage du refrain. Et il y a cette jetée Brighton Pier là qui est complètement où il y a la fête foraine, mais il y en a une autre qui était avant qui a brûlé. On voit juste les arceaux, enfin les colonnes brûlées quoi, et c'est vraiment très graphique, c'est très beau. En tout cas, la mer était calme et on a écrit cette chanson, le reste de la chanson ensemble à Brighton. Quoi.
Le côté apaisé donc.
Voilà.
et j'ai lu qu'il y avait aussi un lien avec le film de Chris Marker.
Oui, oui, ben, cette histoire d'amour impossible à cause du temps.
Film mythique, voilà, la
magnifique.
Jetée.
Oui. Oui, oui, magnifique. Après, en l'écrivant, je n'y pensais pas vraiment, mais ça s'est recoupé. Pareil, dans mon esprit, il y a plein de choses qui se font inconsciemment. Je m'en rends compte souvent. Moi, j'écris, je recrache un peu tout ce que j'ai emmagasiné. Et c'est vrai que j'avais vu ce film...
Et comment te viennent les textes en général ?
Bah, c'est assez instinctif.
Quand, n'importe comment, ou il y a des contextes qui te sont favorables à l'écriture ?
Je pense qu'il y a effectivement des contextes favorables, comme le train, le voyage. J'ai écrit notamment Coquelicot sur un trajet de Nancy à Berlin. C'est venu
dans
d'une
traite. Camion, dans un camion ?
Oui, un camion, pardon. C'est un camion de tournée, un van, quoi.
Ah voilà. Oui, d'accord. Oui, parce que moi, j'avais juste lu dans un camion et la façon dont c'était formulé, je me disais, qu'est-ce qu'elle faisait dans un camion Berlin à Paris ?
Oui, là, c'était un van de tournée.
D'accord.
À l'arrière, voilà, j'étais pareil, des histoires d'amour un peu compliquées. Et là, c'est venu un quart d'heure, le texte était là et puis la mélodie dans ma tête. Et en arrivant à Berlin, j'ai pris une guitare et j'ai joué cette genre d'arpège ou picking, je ne sais pas comment on dit, et la chanson était terminée et je l'ai pu toucher. Quoi. Bon, après, avec Dan Levy de The Do, qui a réalisé l'album, on l'a un peu étoffé, mais la base, guitare-voix, était la même. Quoi, et donc ça s'est passé en un quart d'heure, c'est assez fou. Mais sinon, globalement, c'est un peu plus laborieux quand même. Et j'ai pas de contexte.
Bon, en même temps, si tu nous disais que tous tes titres sont écrits en un quart d'heure,
ça serait un peu énervant.
Oui. Je pense que ça énerverait certaines aussi qui passent beaucoup plus de temps.
Oui, c'est sûr. Non, non, non. Des fois, bah, justement, la jetée, ça s'est étalé sur un an.
Et donc, c'est les textes en premier, les musiques ensuite ?
Non.
Ah non.
C'est vrai que je me suis mal exprimée, mais pour Coquelicot, j'avais la mélodie en tête en écrivant le chanson. Enfin, ça se mélange, quoi. Quand j'ai commencé à écrire des chansons, donc on en parlait adolescente, là, c'était toujours le texte. Il fallait que j'aie terminé le texte avant de me mettre à la musique. Ensuite, ça s'est inversé. J'ai été plus inspirée. J'avais envie de belles mélodies, de vraiment coller à la mélodie. Donc, j'ai fait ça dans l'autre sens. Et puis là, plus ça va, plus c'est vraiment une forme de tissage. Ça se correspond. J'écris 2-3 mots sur lesquels je trouve une mélodie. Puis j'amorce la suite de la mélodie qui m'amène les 3 autres mots. Et ça se passe plutôt comme ça, vraiment un enchevêtrement de choses, de mots.
Oui, parce que moi, ce qui m'a surprise en écoutant ton album, c'est qu'il y a vraiment un travail de mise en musique des mots, des phrases, qui est assez étonnant, je trouve.
Par exemple.
Comment tu travailles ça ? Écoute, je ne sais pas, il faudrait que j'ai les textes les là sous le. Mais il y a des. Oui. Je trouve qu'il y a une mise en musique des mots, c'est ce qui m'a frappée, qui n'est pas banal, qui est. Je ne sais pas, il y a des façons de les mettre en musique qui m'ont intriguée.
Bah, ça me fait plaisir, en tout cas, c'est chouette. Moi, c'est vrai que je suis très attachée aux mélodies. Quoi.
Oui.
Il y a ce truc un peu pop qui est très important pour moi, justement, notamment les Beatles. Et donc, c'est essentiel pour moi. Et là, dans ce disque, j'ai cherché un peu la simplicité, des belles mélodies simples et des mots qui coulent. Quoi. Pas d'aspérité, d'un truc un peu doux. Et en même temps, c'est vrai que quand j'écris, des fois, ce sont juste les sonorités qui m'amènent les mots et pas forcément le sens. Le sens vient plus tard. Mais je suis capable de choisir un mot juste pour son son. et pas pour le sens.
Donc j'ai lu qu'il y avait eu un long travail de maturation sur les chansons de cet album avec donc Dan Levy. Mm-hmm. Tu dirais que tu es allée de où à où ? Entre le point de départ et le point d'arrivée.
En fait, donc moi, j'avais fait des démos chez moi. Bon, toutes les chansons n'existaient pas encore, mais c'est vrai qu'on a travaillé ensemble pendant 2 ans. On a fait 3 jours par-ci, 3 jours par-là. Alors oui, lui travaille comme ça. Il aime bien faire des sessions courtes.
Puis il faut que ça décante.
Ça décante parce qu'au bout de 3 jours, je sais pas, il me supportait plus. Pourtant, je suis assez calme, il n'y a pas de problème.
Il faudrait savoir, est-ce que c'est avec tout le monde pareil ou juste avec toi?
Oui, non, je crois que c'est avec tout le monde pareil. Il aime bien après retrouver sa solitude et travailler tout seul, ce que je peux comprendre. Donc, ça se passait comme ça et lui, il trouvait ça vraiment important qu'il y ait du temps, justement. Et puis, il se trouve qu'il travaillait sur d'autres trucs aussi en même temps. Justement, par exemple... la musique du film « J'ai perdu mon corps » sur laquelle il a gentiment et... je ne sais pas, d'ailleurs c'est gentil, mais en tout cas il a trouvé que « La complainte du soleil » qui fait partie de cet album irait bien et l'a proposé au réalisateur qui a adoré aussi. Donc ça c'était en fait la première étape de notre collaboration.
Et du coup dans ton clip on voit des images d'animation, oui. Puisque c'est un film d'animation.
Exactement.
Qui a été césarisé, même doublement césarisé,
oui.
Non ?
Pour la musique... Et
bravo.
Merci. C'est surtout Dan Levy, mais oui. Et quand même, je fais partie. Et puis pour le meilleur film d'animation. Donc, c'est beau, c'est super. Puis il était en course pour les Oscars aussi, enfin nommé aux Oscars.
Oui,
on ne pouvait pas faire face à Toy Story, mais voilà.
C'est déjà beaucoup.
C'est déjà pas mal.
Oui.
Non, et c'était super comme premier. Donc, ça, c'était notre premier essai parce qu'il fallait qu'on voit si nos caractères étaient compatibles, justement. Donc, au-delà de 3 jours, non, mais pour 3 jours, ça allait.
Donc, vous avez fait beaucoup de séances de 3 jours.
Voilà, beaucoup de séances de 2-3 jours.
D'accord.
Sur 2 ans. Et en fait, notre gros travail principalement, c'était mon désir à la base de travailler sur la voix et d'être aidée pour ça parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre. C'est-à-dire que sur Nord, il y a beaucoup de réverb, beaucoup d'effets. Sur tout le disque et là j'avais envie d'être vraiment plus simple mais j'étais tellement habituée à cette réverb que je savais pas comment faire et en fait ça a modifié ma façon de chanter, le fait d'enlever tous ces effets, ça m'a fait prendre conscience que peut-être je faisais des choses un peu trop empruntées, je ne sais pas, et d'essayer de chanter vraiment au plus simple possible, au plus proche de ma voix parlée. Et ça, c'est un travail que j'ai toujours voulu faire et je pensais en être pas loin, mais en fait, pas du tout. Et ça se trouve, j'ai encore beaucoup de chemin d'ailleurs, mais voilà, c'était ça vraiment qui a pris du temps et qui s'est un peu amélioré au fur et à mesure des séances. Et puis aussi l'idée les chansons. Il fallait que ça marche tout de suite avec Dan, il fallait qu'il puisse tout de suite ressentir quelque chose, sinon il mettait la chanson un peu à la poubelle. Alors j'étais très triste et j'ai insisté sur certaines, j'ai dit non mais celle-là vraiment, donc Coquelicot par exemple, ou même La Jetée et Nuit Forêt qui sont finalement maintenant ses chansons préférées à lui, mais sur le moment il m'a dit non là je le sens pas, ça va pas, il faut que ça vienne tout de suite, faisons un truc plus simple, donc Les Ronces, hop là direct, c'était immédiat. Par exemple, et on y est revenu plus tard, heureusement, et j'en suis très contente. Et finalement, là, ça s'est débloqué d'un coup. Des fois, c'est le moment, je sais pas, il faut sentir les choses.
C'est drôle parce que quand tu parles justement de simplifier, mm-hmm. Moi, j'ai regardé, je ne sais plus sur quel titre c'était, mais une vidéo, comme j'en ai regardé pas mal pour préparer l'interview, qui date d'il y a quelques années, où tu étais dans un... Je ne sais même plus pour quel média c'était. Mais tu chantes, tu es debout, tu chantes dans un petit studio.
Mm-hmm.
Et en fait, ce qui m'a amusée, c'est que si on regarde le clip, si on regarde cette vidéo sans le son,
oui.
On a l'impression que tu chantes de l'opéra.
Ça ne m'étonne pas.
Tu as mais c'est très, très étonnant. Oui. Des expressions de visage, on a là... Comme... Les cantatrices, il y a quelque chose de très
c'est rigolo.
Curieux.
Il se trouve que j'ai appris le chant, quand je parlais des cours de chant tout à l'heure,
oui.
Avec une prof de chant classique.
Ah, donc peut-être
voilà.
T'as pris un peu
donc
des...
J'ai pris des mimiques sûrement, et puis d'accord. Une façon de placer ma voix empruntée de là. Maintenant j'essaye de m'en défaire un peu et d'être vraiment, c'est ça, au plus proche de la voix que j'ai là tout de suite, quoi.
Et avec Dan Levy, vous avez joué quasiment tous les instruments de l'album ?
Oui, Ben, moi, essentiellement, guitare et voix, et 2-3 claviers, et guitare classique, guitare électrique, tout ça. Et lui, quasiment tout le reste, en fait. Sauf les cordes sur la complainte de soleil, sinon on a fait tout ça tous les deux.
Ouais. Oui. Alors, ce qui m'a frappé aussi dans tes chansons, c'est que, je te le disais avant qu'on commence cette interview, c'est qu'il y a vraiment une grande délicatesse, une grande finesse, quelque chose de très pur et d'essentiel, une sorte de grâce comme ça, que l'on retrouve aussi, enfin moi je trouve, chez Camille Youpom. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai entendu La complainte du soleil et Coquelicot, je me suis demandé si ce n'était pas des chansons de Pomme, tellement, ah. Et parce que j'avais interviewé peu de temps avant, tellement il y avait quelque chose de proche dans cet univers très sensible et cette façon de, je ne sais pas, de poser la voix. Et j'ai vu ensuite que vous vous connaissez, que vous avez même partagé la scène au Café de la Danse. Est-ce que vous la ressentez, parce qu'en dehors de ça, vos deux univers sont différents et ont chacun une vraie personnalité très affirmée. Mais moi, ça m'a vraiment étonnée, cette proximité musicale. Est-ce que vous la ressentez ? Est-ce que vous sentez des choses en commun ?
Je pense qu'on a des influences communes, ça, c'est sûr. Qu'on est touché par un peu les mêmes choses et qu'on aime bien ce côté un peu pur avec une guitare et une voix. Enfin, pour moi, une chanson doit se tenir comme ça. Maintenant, non, ce ne sont pas des chansons de Pomme, mais c'est marrant, on avait chanté Coquelicot ensemble, justement.
Oui, j'ai vu ça, j'ai retrouvé sur YouTube, oui, cette vidéo.
Voilà, que dire, j'aime beaucoup ce qu'elle chante, c'est très beau. Camille, j'ai été très inspirée depuis que je suis adolescente, enfin, depuis qu'elle a sorti son premier album, j'ai tout suivi, je connais tous ses disques par cœur et je pense que c'est une de mes grandes influences.
Et les qualités dont je parlais là, cette délicatesse, on la trouve aussi chez Yaël Naïm qui chante avec toi sur le titre Coquelicot, un texte très bucolique qui parle d'épines, de feux de bois, de glycines, de corbeaux, de pétales, de racines, de roses, de cerises, d'églantines et de coquelicots. Quelques mots sur cette rencontre ?
Alors la chanson, comme je le disais, je l'ai écrite avant, hein, parce que d'ailleurs je l'ai partagée avec Pomme sur plusieurs scènes, etc. Mais on sait, moi, Yaël, un peu comme Camille, elle fait partie des chanteuses et des artistes que j'écoute depuis que j'ai 12 ans, 10 ans même. Je l'avais vue quand elle chantait avec les 10 commandements, je l'avais vue sur scène et c'était mon personnage préféré. Et après j'ai écouté tous ses albums que... comme ceux de Camille, je connaissais par cœur. Et ça, elle fait vraiment partie des chanteuses qui m'ont donné envie de chanter et de faire ce beau métier que je fais là. Et par magie, on s'est rencontrés autour d'une performance, on va dire. On chantait toutes les deux dans une salle différente, l'une après l'autre, dans un ancien musée de peinture à Grenoble. C'était scénographié par Johan Bourgeois, entre autres. Et j'ai chanté juste avant elle, cette chanson, et quelques autres. Et après, je suis allée l'écouter. Elle chantait sur son beau culbuto, là. Elle avait ses cheveux qui touchaient presque le sol et tout ça. Et puis, on s'est parlé après et on s'est beaucoup aimé. Et elle m'a dit qu'elle avait aimé cette chanson en particulier, d'ailleurs. Et donc, quelques temps plus tard, je me suis dit, bah, quand même, faudrait peut-être que... Enfin, ça serait chouette si je pouvais faire un duo avec Yaël Naïm. C'est un peu mon idole. Donc, maintenant que je l'ai rencontrée, je vais lui proposer. Et puis, elle a accepté. Donc, j'étais très heureuse de ça.
Et du coup, on peut trouver sur le net une vidéo où vous êtes toutes les deux
dans son jardin,
dans l'herbe, voilà. Ah, c'est dans son jardin. Oui. À interpréter avec beaucoup de délicatesse, vos deux délicatesses, ce titre.
Oui, puis on va sûrement là faire une vraie... parce que là, c'était un espèce de live Facebook et Instagram. Voilà. Mais là, je pense qu'on va faire une belle vidéo... j'en dis pas plus.
Pour ce titre-là. D'accord. Dans les titres de tes chansons, sur ce deuxième album, il est aussi beaucoup question de nature, hein, de forêt, de ronces, de coquelicots, de brume, de soleil. Ça va très bien avec So Sweet Planet. C'était voulu, cette belle place accordée à la nature ?
Oui, bah c'est comme je le disais, je réfléchis pas trop quand j'écris, mais ça fait partie de moi, de mon écriture. Je pense que j'ai un côté romantique, au sens vraiment premier, enfin premier, je sais pas si c'est le premier ou le deuxième, mais enfin au sens des poètes romantiques, des écrivains, des peintres, et que je pense que on vit trop loin de la nature, c'est pas assez présent dans nos vies, et finalement il n'y a pas plus beau, pas plus pour moi en tout cas évocateur que d'associer en fait les émotions à des choses de la nature, à des éléments, à des tempêtes. Voilà, les tempêtes extérieures, pour moi, reflètent vraiment les tempêtes intérieures. Enfin, dans l'autre sens, peut-être. En tout cas, par exemple, quand j'étais petite, par moments, c'est sûrement, ça me vient de la toute-puissance de l'enfance, mais des fois, j'étais persuadée qu'en fonction de mes émotions, la météo changeait.
Ah.
Que quand j'étais triste, il pleuvait. Que quand j'étais énervée, il y avait beaucoup de vent, et quand j'étais heureuse, du soleil. Mais bon, finalement, je pense que c'est plutôt l'inverse.
Oui, c'est la météo qui influence ton...
Qui influence mon caractère, oui, et mes émotions. Mais vraiment, donc je me sens un lien comme ça avec la nature, mais comme on a tous, je pense. Mais...
Oui. Et quelle place elle a, cette nature, même si nous-mêmes faisons partie de cette nature. Mais dans ta vie, est-ce que tu es plutôt une fille urbaine ou tu passes beaucoup de temps dans un environnement plutôt campagne, des forêts, des lacs, des... je ne sais pas.
Dans ma tête, je passe beaucoup de temps assise au bord d'un lac avec plein de sapins autour, mais malheureusement, j'habite en ville et je passe pas assez de temps à mon goût. Au milieu de la nature, mais dès que je peux, je fais en sorte de me retrouver un peu au milieu de celle-ci.
Sur So Sweet Planet, donc, on parle souvent d'environnement et de droits humains. Est-ce que est-ce que tu t'y intéresses un peu? Est-ce que ça a une place dans ta vie? Est-ce que tu relis ça à des thèmes particuliers qui te concernent ou qui te touchent? Quelle place ça a, toi, dans ta vie?
Eh ben, ça, je me questionne beaucoup et je pense que ça se ressent dans mes chansons. Ben, notamment, il est beaucoup question de nature et puis aussi j'étais vraiment atterrée, terrorisée, je sais pas, tout ce qu'on veut par rapport à la place de la femme dans le monde, et puis même en France, enfin, tous ces féminicides, ça m'a vraiment... je sais que ça existe depuis la nuit des temps, mais on en parle... j'en prends vraiment conscience maintenant, sans doute. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me bouleverse et dont j'ai envie de parler. Après, dans ma vie à moi de tous les jours, comment c'est présent, il faudrait que je fasse plus de choses à mon goût, il faudrait que je m'engage plus dans des associations, etc. Donc j'y songe, pour l'instant j'en fais trop peu.
Oui, à ton goût,
à mon
mais
goût.
En même temps tu en fais quand même déjà, parce que déjà avec cet album, d'assumer une fille, et puis... Ensuite, tu parles de... Alors, il y a la chanson dans mon lit, il y a le clip où tu assumes aussi une relation avec une fille. Il y a la pochette de l'album. C'est beaucoup aussi, parce que c'est pas si ça a évolué, c'est encore pas si simple.
Oui.
Donc c'est un engagement.
C'était important pour moi là, d'assumer mon homosexualité, parce que j'ai pas réussi à le faire avant, et je trouve ça scandaleux. Et je m'énerve toute seule, mais je me dis...
Mais il y en a qui n'y arrivent jamais, hein, donc c'est pas si mal.
Il y en a qui n'y arrivent jamais, en plus, c'est vrai. Mais c'est terrible. Mais je me dis pourquoi... Bon, c'est tout un... Ça, c'est un vaste débat, mais... Oui, et c'est marrant, parce qu'il y a des gens qui le prennent pour eux, cette chanson, dans mon lit, qui se sentent concernés, enfin... Mais je veux dire, dans le mauvais sens du terme, ils me disent... parce qu'il y a une phrase juste avant le refrain qui dit « Qu'est-ce que ça peut vous faire si je préfère dans mon lit une fille ?»
Oui.
Et il y a des réactions. Bon, il y a beaucoup de superbes réactions. Hein, oui. Je suis très heureuse avec ça. Mais il y en a d'autres qui me disent « ça ne peut rien nous faire, on s'en fiche. Ce texte aurait été courageux en 1950, mais aujourd'hui, franchement, wake up, on est en 2021. » Je dis « wake up, c'est à vous de vous réveiller,
parce que
mes pauvres, on n'est pas au bout de nos peines du tout. Il y a encore plein de problèmes à ce niveau-là. »
Des très gros problèmes.
Des très gros problèmes.
Y compris des violences physiques. Et en plus, ça augmente d'année en année en France. Donc quand on voit les chiffres de SOS homophobie, et on voit que les chiffres des agressions augmentent ces dernières années, réaugmentent après avoir baissé.
Terrible.
Donc wake up, oui.
Oui, c'est ça. Donc je pense que vu ce genre de commentaires, justement, et puis ce que tu dis, évidemment, et puis la PMA qui n'a pas été acceptée, et puis plein de choses. Bon, il y a encore du boulot, quoi.
Oui, il y a encore du boulot, donc c'est pas si facile de le dire comme tu l'as fait, de le chanter, de le défendre.
Finalement, je vois pas pourquoi ils se sentent directement concernés. Et je pourrais très bien m'adresser à mes parents. Enfin, je pense que un coming out à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de la vie, c'est difficile en fait. C'est jamais simple et il faudrait que ça le soit. En fait, il y a plus de, je vois pas où est le problème. Je retourne le truc dans ma tête et je pense que les gens qui ont un problème avec ça, c'est qu'ils ne sont pas au clair. Enfin,
Mais j'ai entendu dans une émission sur France Inter la semaine dernière qui était consacrée à l'homophobie, où en fait plusieurs personnes témoignaient, dont un garçon, je crois qu'il était dans le milieu du football, c'était assez courageux d'ailleurs, qui racontait, mais je crois qu'il a écrit un livre, qui racontait à l'antenne qu'il avait fait partie de groupes qui faisaient du gay bashing, c'est-à-dire qui allaient là où ils savaient qu'il y avait des homosexuels, sortis de boîtes de nuit ou dans des endroits dans la nature, et qui allaient vraiment pour agresser physiquement. Je ne sais même pas si c'était que par rapport aux gays, aux homosexuels hommes.
Bon, c'est encore plus dur pour les hommes.
En tout cas, ils l'avaient fait, mais ce qui était vraiment intéressant et courageux, je trouvais, bon, déjà, de le dire, ce que je n'ai pas rencontré souvent, je n'ai pas souvent entendu des personnes dire « oui, j'ai fait partie de groupes qui allaient faire du gay bashing », mais en fait, il expliquait pourquoi il le disait, c'est qu'en fait, il s'est rendu compte, après des années, qu'il était homosexuel.
Ah oui.
Et donc, il n'avait pas...
Donc ça lui faisait peur. En fait.
Et une partie de l'émission était sur le fait qu'effectivement, souvent, pas toujours évidemment, on fait attention à ce qu'on dit, mais qu'il y a quand même une partie des gens auxquels ça pose un vrai problème comme ça, avec des réactions extrêmement violentes.
Épidermiques, c'est parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. En fait.
Voilà
c'est
où il y a
sûr.
Des...
Moi, je suis assez convaincue de ça aussi.
Voilà. Mais par rapport à Wake Up, il y a aussi le fait que quand même, il y a encore beaucoup de pays dans le monde où être homosexuel, c'est s'exposer à la peine de mort.
Bien
sûr. Il y a
encore
beaucoup de pays où c'est la peine de mort. Donc... quand il y a des réactions légères par rapport au fait que... Mais c'est bon. Après, voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a encore des féministes qui croient que tout est réglé.
Ouais.
Il y en a d'autres qui pensent qu'il n'y a plus de... Le racisme, tout est réglé.
Oui, non, sans grave.
Donc bon, il y a encore du travail quand même. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Alors donc, tout à l'heure, on a parlé de ce titre La Jetée et de Chris Marker avec le film aussi. Quelle est la place du cinéma dans ta vie? Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi que l'image a une grande place. Et d'ailleurs, alors déjà cette question-là, je vais attendre pour la suite.
Eh bien, une grande place, le cinéma, dans ma vie. Et d'ailleurs, si on écoute l'album un peu et qu'on fait attention, je pense qu'il y a un espèce de jeu de piste et qu'on peut retrouver des références cinématographiques un peu dans chaque chanson. Je vis avec une femme qui est donc directrice d'un festival de cinéma qui s'appelle le Festival du film subversif de Metz. Et du coup, on regarde énormément de films, toutes les deux. Bon, c'était déjà le cas, moi, avant de la rencontrer, mais là, c'est un peu plus pointu maintenant.
Oui.
Et c'est super. J'ai l'impression parfois de... surtout pendant le confinement, vraiment de vivre par procuration. Et je suis très inspirée aussi par ça. Évidemment, ma vie à elle toute seule ne serait pas, je pense, assez intéressante pour écrire des disques. Donc, j'essaye de me projeter dans la vie d'autres personnages. Et le cinéma m'aide beaucoup pour ça. Oh, la littérature aussi, mais surtout le cinéma.
Dans la présentation de ton dernier album, j'ai lu qu'il y avait 4 clips cinétiques, d'ailleurs, de prévus, mettant chacun en scène une artiste, à commencer par Afsia Herzi pour Nuit Forêt.
Oui,
mais ça, j'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé, ce clip.
Et non, parce qu'on le garde encore un petit peu.
Ah, mais il est tourné.
Il est tourné, il est prêt.
Mais alors, qu'est-ce qu'on attend?
C'est bête, on aurait dû changer la bio, mais qu'est-ce qu'on attend? Ça sont des stratégies un peu de maison de disque, on va dire.
Oui, parce qu'il sortira quand le titre sortira en single ou comment ?
Oui, c'est ça. Enfin, le titre est déjà sorti puisqu'il est sur l'album.
Ah oui,
mais pas on va le mettre en avant.
Là, c'est surtout la jetée, non ? Moi, j'ai beaucoup entendu la
jetée. Alors, on a sorti Cavale d'abord avec un clip qui met en scène Camille Rutherford, que j'adore.
Beau clip, avec des chevaux.
Avec des chevaux, oui, c'est vrai, je monte à cheval. Moi, c'est toujours, à chaque album, il faut que je monte à cheval dans un clip, c'est important pour moi.
Que c'est important dans ta vie de monter à cheval.
J'adore ça. Je disais, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais petite, je préférais vraiment monter à poney que faire du piano. Après, ça s'est un peu inversé, mais j'ai beaucoup, beaucoup monté à cheval et c'est une grande passion. Malheureusement, je n'ai plus le temps vraiment d'en faire autant, mais j'adore ça. Dès que je peux, je monte à cheval et j'adore ces animaux, ils m'ont tellement apporté. C'est vrai que c'est fou, la relation à l'animal, ça peut vraiment soigner de beaucoup de choses. J'étais une petite fille très timide et très angoissée et en fait je pense que ça m'a soignée. On est obligé de prendre sur soi pour que l'animal écoute quand on est sur son dos. Et on ne peut pas être vraiment timide et on ne peut pas être angoissé non plus parce qu'il le ressent tout de suite. Et cette relation m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, ça me manque, mais voilà, quand je peux...
Donc Cavale, superbe clip.
Cavale, oui, pardon. Ensuite, La Jetée, qu'on a tourné en Normandie.
Très
aussi,
beau clip aussi.
En noir et blanc principalement, merci.
Oui, là c'est très cinématographique aussi, oui.
J'avais envie d'avoir des ambiances différentes à chaque clip et que ça soit cinématographique, mais le cinéma c'est tellement large que ça permet plein de choses. Et ensuite on a fait un clip pour Dans mon lit avec Luana Bajrami, qui joue dans Portrait de la jeune fille en feu notamment,
de Céline Sciamma, qui a compté pour toi apparemment.
Oui, beaucoup.
Ce film, oui.
Oui, oui. Ouais, j'ai trouvé superbe ce film, il est aussi très inspirant. Et puis donc à Via Erzis, ce sera pour Nuit Forêt et à la rentrée, je pense.
D'accord. Et la rencontre alors avec Via Erzis ?
La rencontre, elle s'est faite grâce au festival de mon amie Charlotte, qui avait invité Via pour présenter un film dans lequel elle jouait le rôle principal. Ça s'appelait This Teacher. C'est un très beau film qui se passe notamment beaucoup dans la forêt. Et l'histoire, c'est que pendant le premier confinement, on voulait avancer sur des clips et continuer à faire des choses et qu'on ne pouvait pas tourner. Et donc, j'ai appelé Avzia et je lui ai dit « C'est marrant, ce film serait parfait pour le clip de Nuit Forêt. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir des images pour faire un clip ?» Et elle m'a donné le contact du réalisateur américain qui s'appelle Mark Jackson, qui a été adorable et qui m'a dit « D'accord, je vais faire un clip à partir des images non utilisées du film, donc des rushs qu'il avait. » Et il a fait un espèce de magnifique plan séquence. J'en dis pas plus parce qu'il n'est pas sorti.
Donc on attend avec impatience. Bon, alors la place du cinéma, la place de la littérature dans ta vie, parce que à lire tes textes, à les écouter, je pense que ça prend pas mal de place aussi.
Pas mal de place, malheureusement pas assez, parce que j'ai pas le temps. Enfin, malheureusement, j'arrive pas à prendre suffisamment de temps pour lire, mais dès que je peux, c'est un tel bonheur. Et bon, mes parents, c'est des grands lecteurs. J'ai quand même lu plein de choses, mais pas assez à mon goût. C'est toujours pareil. Mais j'ai été beaucoup influencée par les poètes surréalistes, et notamment l'écriture automatique. Et j'essaye, en fait, quand j'écris, de me mettre dans cet état-là. C'est peut-être aussi parce que je suis fille de psychiatre, mais essayer de réveiller l'inconscient, ça m'a toujours intéressée, en tout cas.
Et du coup, tu utilises des méthodes, non, pour...
Pour boire un petit verre de rhum. non, je plaisante. Non, des fois, oui, la méthode, c'est de prendre un crayon, une feuille et de mettre un chronomètre, je ne sais pas, 10 minutes ou une demi-heure, et de s'obliger à ne jamais lever le stylo, quoi.
D'accord. Voilà.
Et ça, c'est une bonne technique.
Alors, la littérature, la musique, le cinéma, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui prend aussi beaucoup de place dans ta vie ?
La musique, on en a parlé.
Oui, on en a parlé pas mal. Les voyages, la cuisine.
Oui, les voyages, tout à fait, les voyages et la cuisine. C'est difficile parce que là, avec cette période pandémique, j'ai pas beaucoup voyagé. J'ai pas mal cuisiné quand même. J'ai fait des gnocchis maison, pas mal de petits plats comme ça. Mais je suis pas non plus une grande chef, hein, pas du tout. Mais oui, j'adore voyager. J'adore notamment marcher au milieu de la nature et me sentir toute petite. Face au monde, quoi, ça me plaît bien.
Tu devais, je sais pas si ça a commencé ou pas, avec toutes ces histoires de confinement et déconfinement, partir en tournée avec deux musiciennes, une équipe féminine, donc.
Je pense qu'on se réveille un petit peu, là, il y a plus en plus de... C'est vrai qu'avant, je sais pas, si on n'avait pas conscience des choses ou pas, mais j'avais une équipe totalement masculine et... Je ne me posais pas nécessairement la question. Et d'ailleurs, en interview, personne ne posait la question. Alors, tu as une équipe avec que des hommes, comment ça se fait ? Bon, non, personne ne m'a jamais posé la question.
Et, oui.
Et là, c'est vrai que j'étais assez atterrée de voir ces statistiques terribles sur le milieu de la musique. C'est quoi ? 80% d'hommes, 20% de femmes, alors que dans les pratiques amateurs, c'est l'inverse. C'est qu'il y a un truc qui ne s'est pas passé, il y a un truc qui ne va pas. Donc, je me suis dit que si à mon niveau, j'avais l'opportunité de changer peut-être un peu les choses, ou en tout cas de mettre des femmes en valeur pour que les petites filles plus tard se disent qu'elles peuvent devenir batteuses ou ingé son ou bassiste ou peu importe, ou réalisatrice ou chef opératrice, c'était peut-être important et donc il fallait que je le fasse. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc on sera trois sur scène et avec Zoé Hochberg à la batterie et Audrey Henry à la basse et au clavier et Thaïssa Arruda au son.
Bien, bravo. Donc pour terminer, alors est-ce qu'on peut annoncer quelques scènes ou tout est tellement bousculé depuis un an, les scènes qui sont sans cesse reporté.
Alors, j'ai pas pris la liste sous les yeux, mais on a pas mal de. Alors, là, ça se décante et il y a pas mal de choses
déjà,
qui arrivent.
Pendant qu'on cherche, les auditrices et auditeurs peuvent aller sur tes comptes de réseaux sociaux.
Ah oui, avec grand plaisir.
Pour rejoindre, déjà pour voir ton actualité, parce que tu postes régulièrement des choses. J'ai vu que tu avais mis une version acoustique de Désarmé sur Instagram il y a un jour ou deux, je crois.
Oui, c'est récemment. Ça. Puis c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait une série de portraits de femmes dans la même idée de mettre des femmes en valeur. Et je parle notamment des réalisatrices, actrices, chefs opératrices, ma petite amie, ma mère. Et puis je vais continuer ça. Pour mettre des femmes en valeur et puis utiliser les réseaux sociaux peut-être autrement qu'avec juste des selfies sur Instagram et Facebook. Laura Kahn, tout attaché ou pas, je sais pas, mais vous pouvez trouver. Il y a le petit V bleu là qui dit que c'est bien moi.
Ton compte vérifié.
Voilà.
Validé, vérifié.
C'est ça. Et donc pour les concerts, Nathalie est en train de chercher, bien sûr, le 23 novembre à la Maroquinerie. Oui. Mais il y a plein d'autres concerts. Alors, on sera le 21 juin à Blois pour la fête de la musique. Le 2 juillet à Verdun. Le 5 juillet à Istres pour les nuits d'Istres. Je continue ou pas ?
Oui, vas-y.
Le 11 juillet à Villedieu-les-Poêles pour un festival qui s'appelle Les Pluies de juillet. Le 17 juillet à Clermont-Ferrand. Le 27 août à Limoges. Le 4 septembre à Bonne. Le 18 septembre à Tourcoing. 29 septembre à Toulouse. Etc, etc. Je pense que c'est pas mal déjà.
Voilà, c'est pas mal déjà. Et puis, il y aura des dates à l'étranger aussi, pour nos amis qui nous écoutent à l'étranger.
Oui, notamment en Allemagne, là, ça se profile. Et puis, pour le reste, on va y travailler bientôt.
Saint-Pierre et Miquelon.
Ah ben, j'espère. Yannick, si tu m'entends, quand est-ce qu'on vient?
Ok, Laura Kahn, un grand merci de nous avoir permis d'entrer dans ton bel univers. Voilà, j'espère que tous nos amis auditrices et auditeurs, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, vont aller chercher maintenant sur le net tes jolis clips. Il y a beaucoup de reprises aussi sur ta chaîne YouTube.
Oui, c'est vrai. Pendant le confinement, notamment, je me suis amusée à... J'avais pas grand-chose d'autre à faire que ça. Donc, à part cuisiner et faire des reprises, j'ai fait ça. Et puis, j'ai l'impression que ça plaisait bien aux gens. Donc, ça m'a fait du bien, ça leur a fait du bien.
Merci beaucoup, très belle continuation. Et puis à une prochaine, j'espère.
Merci, à très vite.
Au revoir.
Au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.